Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler de cette fameuse saga de l'éclipse solaire. J'allais dire l'éclipse scolaire parce qu'il y a une partie du jugement qui a sacré le camp dans les écoles et au ministère de l'Éducation en vue de cet événement absolument extraordinaire qui aura lieu le 8 avril. Éclipse solaire, ça n'arrive à peu près jamais. Ça arrive une fois aux quelques décennies. C'est une occasion d'enseigner la science, d'enseigner le système solaire, etc., etc. Il y a des écoles qui avaient reculé, qui avaient dit, écoutez, finalement, là, on a écouté les scientifiques et on va y aller, on va accueillir les élèves, on va pas tomber en pédago. Ben, il y a quelque chose qui est venu, disons, mettre du gaz dans l'eau, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation a envoyé une note de service au centre de service scolaire pour leur dire, attention, attention, pas en telle heure et telle heure, on n'envoie pas les enfants dehors, etc. C'est dangereux, il faut prendre des mesures de sécurité. Résultat, il y a des écoles, il y a des centres de services scolaires qui ont fait volte-face et qui vont décréter des pédagos le 8 avril. Marie-Ève Nau, on l'a reçue il y a une semaine. Elle est astrophysicienne à l'Université de Montréal et aussi coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement de l'Institut Trottier sur la recherche des exoplanètes. Elle est au bout du fil. Marie-Ève Nau, bonjour.
Bonjour.
D'abord, on va établir quelque chose. Si je regarde le soleil aujourd'hui, dans ce bel après-midi ensoleillé, est-ce que c'est plus dangereux que si je regarde le soleil le 8 août pendant le 8 avril pendant l'éclipse?
À toute fin pratique, non. Vous pouvez tout à fait vous brûler les yeux aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous n'avez qu'à fixer le soleil aujourd'hui, puis c'est vraiment tout à fait possible de se brûler les yeux. Pareil comme pendant l'éclipse. Donc, il n'y a pas de rayonnement spéciaux qui arrive pendant l'éclipse. C'est toujours le même soleil. Sa surface est extrêmement brillante. C'est pour ça que vous et moi, on le fait pas, là, d'habitude, de fixer le soleil pendant de longues secondes, là, parce que, bon, ça nous éblouit, c'est pas le fun. Personne fait ça, même les bambins font pas ça. Pas le fun de fixer le soleil, on le fait pas. Mais c'est sûr que pendant l'éclipse, si on remarque dans les derniers moments avant la totalité là, que la noirceur va commencer à s'installer, c'est sûr que ça va être très excitant. Puis bon, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose? Ben ça se peut qu'on ait tendance à regarder. Mais je vous rassure quand même aussi, le soleil va rester très, très, très brillant. Là. Même s'il manque 75% de sa surface, 80% de sa surface, 85% de sa surface, il va être très, très, très éblouissant. Donc c'est peut-être quelque chose qui est dans les toutes dernières minutes, secondes, il faut quand même se rappeler, même s'il reste un tout petit morceau de la surface du soleil, il faut quand même pas le regarder pendant de longues secondes. Ça reste dangereux. C'est vraiment juste quand il est complètement caché qu'on peut le regarder.
OK. Notre équipe de recherche a fait une fouillée dans les archives des médias, des journaux. En 1994, il y a eu une éclipse. Il y a eu des avertissements. Faites attention. Prenez l'équipement nécessaire. Fixez pas trop longtemps le soleil. Il n'y avait pas cette hystérie qu'on constate aujourd'hui en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans?
C'est une très bonne question. Moi, en 94, j'étais en cinquième année puis j'ai profité de l'éclipse dans ma cour de récréation. On n'avait pas là, les fameuses petites lunettes là, homologuées ISO 1-2-3-1-2-2 là, pour regarder fixement le soleil directement. Mmh. On les avait pas. On avait utilisé un autre moyen qui est indirect, là, où on tourne notre dos au soleil, on laisse le soleil passer dans un petit trou puis on regarde son image. On avait profité de ça puis c'était extrêmement génial. Je m'en souviens encore. Donc, c'était un grand moment là pour le Québec. La plupart des gens de ma génération s'en souviennent. Je pense que aujourd'hui, en 2024, si ça se trouve, on est encore mieux équipés qu'avant. Donc, ces petites lunettes-là sont rendues très abordables. Nous, à l'Université de Montréal, par exemple, on en a commandé plusieurs dizaines de milliers. C'était moins d'un dollar, largement moins d'un dollar là, quand on s'y prenait à temps. On a fait beaucoup, beaucoup de travail en amont. Ça fait plus de 3 ans, dans le fond, qu'on travaille avec un regroupement qui s'appelle Éclipse Québec, notamment pour mettre en ligne un site qui s'appelle éclipsequebec.ca, qui contient énormément d'informations et une information qui est juste à propos de l'éclipse, qui n'est pas alarmiste, qui est juste et fiable, parce qu'on sait qu'une éclipse solaire, encore plus une éclipse solaire totale, là, comme une partie du Québec va vivre, c'est très rare. Donc, c'est normal que les gens ne sachent pas. Donc, si les gens à la maison sont comme, hey, moi, je suis pas sûre de tout comprendre, j'ai pas tout, c'est normal. Ça arrive jamais. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on est là, puis qu'on fait de l'éducation activement depuis 3 ans au sein de nos organisations respectives. Moi, je suis à l'Université de Montréal, mais il y en a d'autres au sein de ce regroupement-là qui sont à l'Astrolab du Mont Mégantic, le programme à la découverte de l'univers, le Planétarium de Montréal, etc., etc. On est plusieurs, la Fédération des astronomes amateurs du Québec. On est tous là, là, pour donner l'information juste.
OK. Avez-vous été consulté par le gouvernement du Québec, justement, sur l'information juste?
Moi, personnellement, non, mais je sais qu'il y a des acteurs du regroupement qui l'ont été partiellement.
OK.
Il y a eu des réunions. En fait, ouais, il y a eu
parfait. Être consulté puis voir ses recommandations relayées, c'est deux choses différentes, Marie Evenot. Quand vous entendez les messages des centres de services scolaires, du ministère de l'Éducation, de la Santé publique, est-ce que c'est synchro avec la science?
Non. Le contenu est pas complètement erroné, ce qui est soulageant. Par contre, l'accent et le ton est vraiment mis sur des enjeux de sécurité qui sont présents, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très faibles. Donc, il y a un risque pour les yeux, bien sûr. On pourrait s'abîmer les yeux pendant une éclipse ou à tout autre moment si on fixe longuement le soleil. La plupart du temps, ce qu'on lit dans des rapports qui sont des rapports de grandes quantités de personnes, sur les 250 millions de personnes qui ont vu l'éclipse solaire totale qu'il y a eu aux États-Unis en 2017, on estime que moins de 100 personnes ont eu des dommages aux yeux. Puis des dommages, je suis pas en train de dire qu'ils sont tous devenus aveugles pour toujours. Ils ont eu des dommages qui ont été, dans la très grande majorité du temps, temporaires. Là, présentement, ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement, c'est à 3 reprises, on peut avoir des dommages permanents. Donc, tu sais, c'est pas l'information qui est pas nécessairement juste, mais c'est au niveau de la communication. Tu sais, moi, je suis communicatrice scientifique, en plus d'être astrophysicienne. Puis quand je lis ça, je me dis, il y a quelque chose qui passe pas là dans le bon sens. L'accent est pas mis sur le bon, sur les bonnes choses. C'est un événement qui est trippant. C'est un événement qui est vraiment le fun. Une occasion en or de connecter le Québec là sur la culture scientifique, d'améliorer notre culture scientifique à tous. Qui vivent un grand moment ensemble. Là. C'est ça, là, le focus.
Marie Evenot, est-ce que je me trompe ou l'élément vraiment trippant, le 8 avril, ce ne sera pas tant de regarder l'éclipse, la lune qui passe devant le soleil, que de vivre le soir qui advient pendant l'après-midi?
Il y a toutes sortes d'affaires qui sont absolument capotantes pendant une éclipse solaire, surtout si vous avez la chance, tu sais, d'être dans cette bande de totalité là qui couvre notamment le centre-ville de Montréal. Et ça inclut, comme vous le dites, il va y avoir de l'obscurité en plein jour. La température va chuter. D'ailleurs, ça, c'est deux choses qui vont arriver, même s'il y a des nuages, hein, parce que ça se peut qu'il y ait des nuages le 8 avril. La partie voir le soleil éclipsé dans le ciel, là, je vous mentirais si je vous disais que c'est pas intéressant. C'est très, très, très intéressant. Autant de regarder la phase partielle, là, quand la Lune vient s'installer. Si on a des lunettes, on le regarde directement. Si on n'a pas de lunettes, on le regarde indirectement. Mais ça, c'est trippant. Mais la partie où le soleil disparaît, la surface du soleil disparaît complètement derrière la Lune, hey, c'est un spectacle à ne pas manquer. Là. C'est complètement fou. À ce moment-là, on voit la couronne solaire, les planètes dans le ciel, les étoiles. Mais quelque chose qui est important, puis vous avez raison de mentionner, c'est que c'est quelque chose qu'on vit, une éclipse. C'est même pas nécessairement quelque chose qu'on voit. Donc, on le vit avec tous nos sens, puis aussi on le vit avec des gens, souvent. T'sais, bien sûr, il y a des gens qui vont décider de voir ça tout seul, mais la plupart du temps, on voit ça avec d'autres gens. C'est un grand moment là pour les gens du Québec de vivre un moment unique. Là.
Puis le gouvernement du Québec, dans sa communication, lui, en fait un enjeu hyper sécuritaire, simplement.
Oui, puis c'est malheureux parce que, tu sais, même juste où ça se trouve sur le site du gouvernement du Québec, écoutez, c'est dans la section sécurité et situation d'urgence, dans la sous-section situation d'urgence, sinistre et risque naturel, et quoi faire avant, pendant et après une situation d'urgence. Ah, tu sais, on se croirait dans une tornade ou des inondations, mais l'éclipse solaire, là, ça fait des années qu'on le sait que ça se prépare, là. On n'est pas dans un mode où on doit agir rapidement, en urgence, en essayant de faire le mieux possible pour éviter que les gens meurent, là, c'est pas du tout ça qui se passe présentement. Il y a un très, très faible risque pour la vision qui est réel. Donc, j'invite vraiment les gens à l'écoute à prendre des précautions nécessaires. Mais c'est tout. C'est vraiment tout. Sinon, c'est juste trippant, là. C'est vraiment cool, une éclipse solaire.
Ben, vous faites bien de marteler ce message de plaisir. Merci beaucoup, Marie-Ève, et vous le faites très bien.
Merci beaucoup.
À la prochaine. C'était Marie-Ève Nau, astrophysicienne à l'Université de Montréal. Et je le souligne, il y a un expert canadien, justement, des blessures de l'œil pendant les éclipses solaires. C'est un monsieur qui s'appelle Ralph Shu, donc optométriste rattaché à l'Université de Waterloo. Et lui, ce qu'il a relayé, c'était dans un article de Québec Science. Il y a eu une éclipse en 2017 aux États-Unis. 215 millions d'Américains auraient été exposés à cette éclipse. 100 personnes auraient été blessées, auraient eu des lésions de façon temporaire. Si vous mettez ça à l'échelle du Canada, là, c'est moins de 10 personnes. Moins de 10 personnes. Toute cette folie-là au Québec de « faites attention, les enfants vont se blesser », c'est pour un potentiel de blessure temporaire sur moins de 10 personnes. Et ce que Ralph Shu dit, expert des blessures, oui, ça existe, expert des blessures en matière oculaire pendant des éclipses solaires, c'est, écoutez, pas plus que 5 secondes. Si vous regardez le soleil, que ce soit pendant une éclipse ou pas, maximum 5 secondes. Passer le message. Je pense qu'on va s'éloigner un petit peu de l'hystérie.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Compte en commun les médecins, les infirmières, les psychologues, les architectes, les ingénieurs. Ben, ces professions-là ont tous un ordre professionnel. Les enseignants au Québec n'en ont pas. Les voisins ontariens ont un ordre professionnel. Et là, il y a un collectif de 8 profs qui a fait une sortie publique en faveur d'un ordre québécois des enseignants. C'est un enjeu polarisant, je le souligne, chez les profs. Pour en parler, quelqu'un qu'on reçoit fréquemment à l'émission, Simon Landry, enseignant au secondaire dans la région de Montréal. Salut Simon.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça mange en hiver, un ordre professionnel des profs?
Ben en fait, l'ordre professionnel est là principalement pour protéger le public face aux enseignants, alors que le mouvement syndical, lui, est là pour protéger les enseignants face à leur employeur. Donc, les deux ont des rôles complètement distincts. Et c'est justement une des choses qu'on cherche à faire avec le mouvement qu'on a lancé ce matin, c'est de clarifier le rôle de l'ordre versus le rôle du syndicat. Nous, on pense pas qu'ils devraient être en opposition, mais qu'ils devraient plutôt travailler côte à côte.
OK, je fais une petite recherche, là, puis déjà, l'année passée, Bernard Drinville disait « Je ferme la porte à un ordre, à la création d'un ordre professionnel pour les profs. » Vendredi, quand votre idée a commencé à circuler, Bernard Drinville a dit la même chose. Les syndicats, historiquement, sont absolument pas intéressés à partager, disons, le monopole de la représentation des profs. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça va marcher?
Ben, la première chose, on le sait, là, la CAQ est bonne pour changer d'idée au fil du temps. Donc, on se dit qu'on a peut-être une chance d'aller affecter un peu leur opinion. L'idée derrière notre mouvement, justement, c'est de partir de la base. Parce que par le passé, les idées d'implanter un ordre professionnel, ça venait d'en haut. Ça venait des gouvernements, ça venait des politiciens. Et souvent, les profs se braquaient parce qu'on avait peur qu'il y ait des dérives. On avait peur qu'on se fasse imposer des choses qui ne collaient pas à notre profession. Là, on a pris l'approche inverse, c'est-à-dire notre collectif, notre regroupement. On s'est dit que si on partait de la base et si on était capable d'informer les enseignantes et les enseignants sur le rôle d'un ordre, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent par rapport à l'ordre professionnel et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le rôle, ben on s'est dit on va partir de la base et on va voir si on est capable d'expliquer aux gens le rôle de l'ordre et de voir si on a une masse d'enseignantes et d'enseignants qui seraient peut-être prêts à embarquer dans l'idée.
Concrètement, là, qu'est-ce que ça changerait pour les élèves que leur prof soit dans un ordre professionnel?
Bien, ce que ça change pour les élèves, c'est que c'est sûr qu'un ordre professionnel, ça vient rehausser les standards de pratique. On parle beaucoup des enseignants non légalement qualifiés, et j'ai un de mes collègues qui est signataire dans le texte, Mathieu Lachance, qui dit qu'il ne faut pas oublier non plus de parler des légalement non compétents. On sait, il y a des enseignants qui sont dans les classes en ce moment qui ne devraient peut-être pas être dans une classe. Il y a différents incidents qu'on a vécu par le passé. Il y a peu d'encadrement de la profession. Oui, il y a le syndicat qui va défendre face à l'employeur, mais en dehors de ça, il y a très peu de contrôle. Il y a très peu de transparence aussi. On sait qu'il y a des enseignants qui naviguent à travers le système année après année en changeant d'école, en changeant de centre de service et qui sont capables de faire 20, 25, 30 ans en n'ayant soit pas les compétences, soit un comportement qui n'est pas à la hauteur des standards qu'on penserait avoir en enseignement. Et l'idée de l'ordre, c'est justement d'aller encadrer ça. On veut aussi encadrer ceux qu'on appelle les non légalement qualifiés pour leur offrir les formations qui sont adéquates. On parle beaucoup de formation accélérée, mais ça, c'est un danger qu'on entrevoit, là, les formations qu'on dirait à rabais pour donner des brevets à plein de monde. Juste pour dire qu'il y a moins d'enseignants non légalement qualifiés.
Simon, je recule un peu la cassette. Oui. Là. Vous avez mentionné tantôt que les syndicats sont là pour protéger les profs. Est-ce que les syndicats, d'après vous, là, fait longtemps que vous êtes prof, protègent aussi quand ils doivent prendre la décision de protéger un syndiqué? Est-ce que l'élève est pris en compte dans le calcul?
Bien, selon leur statut, c'est pas leur mandat. Donc, souvent, ce qu'ils vont vous répondre, c'est que ça, c'est le rôle de la direction. C'est le rôle des centres de services, c'est le rôle du gouvernement. Et justement, on en parle, j'ai des commentaires des gens, il y a déjà plein de monde qui me surveille, qui me supervise, j'en ai pas besoin d'un plus. Mais justement, l'idée d'un ordre, c'est de recentrer tout ça dans les mains des profs, un peu comme tu as mentionné, plein d'autres métiers font déjà, et de se reprendre en main nous-mêmes au lieu de dépendre d'organisations externes.
Ce que le ministre Drainville dit, c'est que la création du protecteur de l'élève, ça protège encore mieux les élèves que s'il y avait un ordre professionnel des profs. Évaluation de ça?
C'est vrai et faux. On va prendre l'exemple de Mme Chantal, là, qui a fait les manchettes l'automne dernier.
C'était qui ça?
C'était l'enseignante de primaire là, qui criait après ses
élèves.
Oui,
elle avait été filmée.
Ça avait été enregistré, pardon, là, ça avait fait les manchettes. Bien, dans le cas qui est là, le protecteur national d'élèves, lui, ne peut faire que des recommandations au centre de service. Et là, le centre de service va vouloir intervenir auprès de cette enseignante-là. Et évidemment, bon, le mouvement syndical va venir protéger ou défendre, si on veut, cette enseignante-là face à son employeur. C'est correct, c'est son rôle. Mais il n'y a personne qui est venu prendre la défense des élèves là-dedans. Le protecteur national d'élèves, à part pour les crimes de nature sexuelle, n'a que des pouvoirs de recommandation. Donc, on ne peut pas enlever un permis d'enseigner à une personne qui a un comportement, on pourrait dire, reprochable, en dehors de certains contextes avec le système du protecteur de l'élève. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment recadrer tout ça, vraiment se calquer un peu sur le modèle de la province d'à côté qui fonctionne bien depuis presque 30 ans déjà. Et dans le fond, l'idée, c'est pour les profs de se reprendre en main eux-mêmes, d'arrêter de dépendre des autres. Et je le répète, je le dirai jamais assez, on n'est pas en opposition avec le syndicat. Il y a deux rôles distincts. Et c'est justement pour ça qu'on a créé un site web, qu'on a créé des comptes des réseaux sociaux pour diffuser la bonne information, pour défaire des mythes, déboulonner des mythes qui circulent par rapport à ça.
Dans l'essai que vous avez publié là, il y a quelques mois, vous avez parlé des syndicats. Et quand vous parlez de profs qui peuvent avoir des mauvais comportements, ça me rappelle, il y a quelques années, j'avais enquêté sur une prof. Elle avait œuvré au primaire, au secondaire. Dans le quartier, tout le monde la connaissait. Je veux dire, les enfants étaient au CPE. Et la réputation de cette enseignante-là faisait le tour des parents, là, tu sais. Et quand j'ai finalement publié, le syndicat l'a défendu, c'est l'Alliance des profs de Montréal, bec et ongle. Tout ce qui était dans son dossier disparaissait après 6 mois, 1 an. Et je m'étais dit à l'époque, s'il y avait un ordre professionnel des enseignants, ben l'ordre aurait eu à cœur, disons, le bien-être des élèves et serait intervenu. Est-ce que ça, c'est une vision un peu utopiste?
Non, en fait, c'est la vision qu'on veut se doter. Justement, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite en arriver là, de pouvoir, nous, entre enseignants, intervenir et dire, attention, cette personne-là n'a pas soit les compétences ou le comportement adéquat dans sa pratique professionnelle. Et on doit intervenir, pas nécessairement en renvoyant tout le monde, parce que ça, c'est un message qui véhicule. Les gens disent, ah, ben là, ils vont renvoyer plein de monde qui n'ont pas les brevets, etc. C'est pas ça, là. Quand on regarde le modèle ontarien, ils sont 240 000 membres. L'an dernier, ils ont retiré 40 brevets d'enseignement. On parle de 0,02% de l'effectif.
Mais ça, c'est sans compter les profs qui se font taper sur les doigts, et je dois le dire, publiquement.
Oui. Oui, ça ne réglera pas tout l'ordre professionnel, mais l'idée, c'est de prendre certains enseignants qui auraient peut-être un problème de formation. Il y en a que c'est pas une question de comportement, il y en a que c'est une question de compétences, et d'aller les recadrer, de leur donner les formations quand ils en ont besoin et de les aider dans leur pratique à devenir meilleurs. On essaie de rehausser la profession enseignante au lieu de toujours niveler vers le bas.
OK, Simon Landry, là, vous faites cette sortie-là en faveur d'un ordre. C'est pas une idée hyper populaire chez les profs, puis je parle pas juste des leaders syndicaux. Vous avez publié un essai où vous étiez critique aussi des syndicats puis de certains profs, etc. Comment ça se passe dans la salle des profs pour vous?
Honnêtement, j'ai pas de problème parce que oui, il y en a qui, on va se le dire, qui gueulent fort, là, mais c'est une minorité qui est un peu plus agressive, qui est un peu plus militante. La plupart des gens, j'ai des amis qui travaillent dans les syndicats, puis on est capable d'avoir des discussions sensées, civilisées. Puis oui, il y a des points sur lesquels ils vont concéder, ouais, t'as peut-être un peu raison là-dessus. Puis il y a des points sur lesquels je vais leur accorder qu'ils ont raison. Et justement, je le répète, on n'est pas en opposition. On veut être côte à côte et c'est une des raisons pour qu'on a attendu d'ailleurs pour sortir ce mouvement-là ce matin, c'est qu'on attendait justement que les négos finissent, que les ententes de principe soient acceptées et signées, justement parce qu'on voulait pas nuire au processus de négociation. Là, ce point-là est réglé, on est prêt à passer à d'autres choses. On veut essayer quelque chose. On se dit qu'il y a probablement suffisamment d'enseignantes et d'enseignants qui seraient prêts à essayer l'idée d'un ordre professionnel. Peut-être qu'on se trompe, mais au fort des discussions que j'ai avec plein de profs au fil du temps, puis notre collectif, là, les autres enseignants, même chose, c'est pas des deux de pique là, qui ont signé ce texte-là. On pense qu'on tient quelque chose qui pourrait peut-être changer pour le mieux le système d'éducation au Québec.
Mais Simon, bonne chance, parce que le vent de face est très, très fort contre l'idée d'un ordre des enseignants.
Puis j'inviterais tous les gens intéressés à aller visiter le site web www.oeeq.ca. Les informations sont là. Allez voir les informations, allez lire sur le rôle de l'ordre, sur ce que ça implique, et après ça, vous pourrez prendre votre décision.
Merci beaucoup. C'était Simon Landry, enseignant au secondaire dans la région de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Je le confesse, je suis fasciné et des fois je suis horrifié par la relation qu'on a avec le virtuel, avec les réseaux sociaux, avec les écrans, et particulièrement chez les enfants, chez les adolescents qui n'ont jamais connu l'enfance sans les écrans, sans les réseaux sociaux. Et en fin de semaine, dans la presse, j'ai chroniqué là-dessus et j'ai cité le docteur Jean-François Chicoine, le célèbre psychiatre, sur ce que le virtuel fait à la vie de nos enfants, au développement de nos enfants, au cerveau de nos enfants. J'ai décidé de l'inviter pour poursuivre la conversation. Salut, doc!
Salut, pédiatre, pas psychiatre, et je suis pas le monument d'humour non plus.
Non, mais t'es drôle de temps en temps. OK. Doc, oui, pédiatre depuis 40 ans, qu'est-ce qui a changé chez les enfants qui grandissent dans le virtuel des réseaux sociaux si on compare avec ceux qui n'avaient pas grandi avec les écrans?
Ben, premièrement, du côté positif, une belle culture de l'image, c'est quand même, et pas juste des mots, les images pour eux veulent dire de plus en plus de choses, ils ont un regard qui est différent là-dessus. Pour le reste, on sait que les connaissances ont pas augmenté malgré l'accès à l'information. On sait aussi que plusieurs mécanismes qui se développent tôt apparaissent différents. Par exemple, leur capacité d'attention, leur capacité d'attendre quelque chose de l'autre, leur capacité de s'ennuyer ou de commencer à rêver, à imaginer, leur capacité de se motiver, de désirer quelque chose qui vient de moins en moins d'eux-mêmes et de plus en plus de l'extérieur. Autrement dit, ils sont de plus en plus sollicités ou en attente de sollicitation de quelque chose qui vient d'en dehors d'eux plutôt que d'eux. Ce qui complique plusieurs tâches, des tâches scolaires naturellement, mais des tâches aussi de dialogue et de relations humaines. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous mal, au contraire, mais il y en a quand même une bonne proportion. On pourrait dire 15 à 30 % là, qui est actuellement victime d'une vie virtuelle plutôt qu'une vie apprise en trois dimensions, dans le réel, dans le tellurique, dans l'organique.
Doc, aux États-Unis et aussi au Canada, là, on note que autour de la fin des années 2000, là, on a vu une hausse des troubles de l'anxiété, des tentatives de suicide, des troubles dépressifs chez les adolescents. Et sans faire un lien de cause à effet direct en béton, c'est à peu près à cette époque-là que les téléphones sont apparus dans nos vies, dans celles de nos enfants. Est-ce que pour toi, c'est clair qu'il y a un lien?
Ah oui. clairement, il faut distinguer le fait d'utiliser un écran, je pense, que ce soit l'Internet pour quelque chose de scolaire, que ce soit un film pour du divertissement ou pour de la culture ou pour apprendre quelque chose sur les éclipses, par exemple, finalement, des réseaux sociaux des avertissements et des stimulations externes, là, comme si on était des rats avec des likes et tout, qui dresse le cerveau autrement et qui joue des tours. Et je pense que c'est pas juste les parents ou les adolescents qui se sont fait jouer un tour dans les 15 dernières années, mais c'est vraiment toutes les sociétés du monde. Ce qu'on observe au Québec, on l'observe aussi en France, aux États-Unis. Les enfants ont de plus en plus de difficultés à être avec eux-mêmes, à utiliser le langage poliment, à regarder les autres dans les yeux, à prendre le temps de penser, de lire, d'imaginer des choses et même de se développer physiquement. Clairement, tout ça s'additionne de myopie, d'une augmentation de l'obésité mondiale. Il y a des statistiques qui sortent dans les dernières semaines qui montrent que le principal problème maintenant, c'est plus la malnutrition qui est un petit peu à la baisse, c'est l'obésité dans tous les pays du monde. Donc, on a des adolescents de plus en plus centrés sur eux-mêmes, de plus en plus gros, de plus en plus myopes, et de moins en moins performants dans leurs études et aussi dans leur vie amoureuse et dans leurs relations sociales.
OK, Jean-François, je le souligne, je le rappelle, tu es pédiatre depuis 40 ans. Il y a aussi, ces dernières années, une explosion des enfants qui ont des troubles d'apprentissage de toutes sortes, et ça a un impact sur eux, sur leur développement scolaire, ça a un impact sur les écoles, sur la façon dont la vie en classe se déroule. Penses-tu qu'il peut y avoir un lien justement avec la multiplication des écrans dans la vie des enfants et des ados?
Oui, oui, très certainement, sur deux niveaux. Premièrement, comme tu l'as souligné, les phénomènes d'anxiété, de dépression et même, je dirais, de colère et d'agressivité sont un petit peu à la hausse. Alors, il suffit dans une population que 10 à 15% soient un petit peu plus anxieux, un peu plus déprimés ou un petit peu plus agressifs. Donc, évidemment, ça donne moins de disposition, de motivation pour la grande aventure scolaire. Et aussi, on sait que les fonctions cognitives peuvent être atteintes avec ça. Alors, trop d'écran, surtout, par exemple, la télévision va avoir un effet sur le langage, sur la cognition, sur l'intelligence, mais trop de petits écrans aussi, les tablettes portables, les téléphones cellulaires et tout, vont aussi interagir. C'est plus difficile de trouver les valeurs avec l'attention, mais ils vont agir énormément sur l'impulsivité, la réflexivité. C'est-à-dire, autrement dit, on a des enfants qui sont de moins en moins autorégulés, qui rapidement, pour un tout ou un rien, peuvent éclater et peuvent faire une crise plus jeune ou complètement dissocier leur attention de leur principale tâche. Alors, les fonctions exécutives, qui sont des fonctions qui se développent tranquillement par rapport à d'autres fonctions qui vont même se développer jusqu'à l'âge de 23-25 ans, elles sont plus primitives. C'est normal chez le jeune et chez l'adolescent, mais elles sont sous-développées de plus en plus à mesure que les réseaux et les stimulations externes sont utilisés de l'extérieur. Et ça, c'est le principal problème, parce que plus on est inflexible, plus on est impulsif, bien, plus on a tendance à aller chercher une satisfaction extérieure, et les cerveaux sont ainsi faits qu'on veut avoir du plaisir, on veut avoir une satisfaction, on veut avoir de la dopamine, et cette dopamine-là, on est toujours en train de la rechercher à travers des objets qui sont externes à nous. Alors, clairement, ces fonctions-là ont diminué. Il y a un autre problème aussi, Patrick, c'est que on s'en va aussi de plus en plus vers des distorsions d'image, par exemple, des filles qui se trouvent trop grosses, pas belles, etc. Ça vaut aussi pour les garçons, mais aussi une monoculture, parce que quand on pense au bien commun, à la langue française, à la culture québécoise, canadienne, à la francophonie ou à d'autres cultures du monde, on voit très bien que ces réseaux-là transportent une monoculture aussi. Donc, on a des adolescents de plus en plus, je dirais, comme des petites patates frites en train de cuire, toujours énervées, et avec de moins en moins de choses à dire, alors qui seraient intelligents, puis alors que leurs parents ont essayé de leur transmettre des valeurs.
Jean-François, est-ce que là, c'est un problème qui trouve sa solution dans la volonté, uniquement dans la volonté des parents de dire « le téléphone, c'est fini »
Les parents font partie de la solution, mais pas juste les parents, c'est les éducateurs, c'est nos sociétés. Je pense qu'on s'est tous fait prendre les culottes baissées par ça, et c'est ça qu'il faut admettre collectivement. Parce que c'est fascinant, tout, ces éléments-là. Toi, moi, on est les premiers à aimer ces écrans-là. Maintenant, ces écrans-là n'ont pas le même effet sur un cerveau en développement. T'sais, le cerveau de l'enfant, il est en train de se développer. Donc, ces circuits neurologiques, c'est la première fois qu'on assiste à une génération dont les circuits neurologiques n'ont pas été additionnés d'appareils électroniques, mais se sont développés avec des appareils électroniques. Donc, les études commencent à sortir. Elles sont vraiment de plus en plus nombreuses. J'aurais pas pu tenir cette même conversation-là avec toi il y a 5 ans. Là, ça sort de partout et on s'aperçoit, on essaie de faire des liens aussi, surtout depuis la pandémie, entre tous les problèmes affectifs, les échecs académiques, notamment des garçons, on en parlait cette semaine, et l'utilisation des réseaux cellulaires. Alors donc, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, premièrement, ils peuvent essayer de respecter les recommandations. Il y a des études qui montrent que 80% des parents n'écoutent pas les recommandations, que ce soit des pédiatres ou faits ou diffusés par les organismes savants ou les éléments. Et si on pouvait juste le faire, contre avis même des voisins ou des autres familles, ben ça aiderait déjà. On dit aux États-Unis et à la Société canadienne de pédiatrie, par exemple, pas d'écran avant 2 ans. En France, dans l'OMS aussi, pas d'écran avant 3 ans. Moi, je pense qu'avant 3 à 6 ans, on peut très bien élever un enfant sans écran. Et puis, entre 3 et 6 ans, si on veut lui donner une demi-heure, une heure avec nous, que ce soit avec une tablette avec nous ou regarder une demi-heure de télévision et tout, avec un contenu choisi, je pense qu'on va pas nuire à sa santé, à moins que ce soit un enfant qui ait déjà des problématiques. Puis à partir de l'âge de 6 ans, clairement, il faut regarder le temps d'ordinateur, il faut regarder le contexte de vie. Est-ce que l'enfant va bien aussi? Ça dépend des individus. Est-ce qu'il a fait son travail? Est-ce qu'il mange en famille? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a fait du sport? Est-ce qu'il a lu 20 minutes avant de faire ça? Ben, si oui, ben là, on pourra aller vers 1 heure ou 2 heures, c'est ce qu'on dit, d'écran. On sait maintenant que 20 à 30% des jeunes de 7-8 ans vont faire facilement 25% à peu près vont faire facilement 3 à 4 heures de jeux vidéo vers l'âge de 8-9 ans. C'est déjà beaucoup. À partir de 4 heures, ça devient toxique. Et à partir de 8 heures, maintenant, on parle de cyberaddiction. Donc ça, et je vois beaucoup de jeunes là, qui ont 4-5 heures de jeux vidéo. Évidemment, ces jeux vidéo-là les empêchent de faire quelque chose. Le temps d'écran, c'est quelque chose qui se mesure pas seul. C'est surtout, qu'est-ce qui l'empêche de faire? Ce qui l'empêche de
souper. Ce dont on se prive.
Ben oui, est-ce qu'il empêche de souper en famille, d'aller dehors, d'avoir des amis?
De s'ennuyer?
Et de s'ennuyer, parce que c'est parce qu'on s'ennuie qu'on a de l'imagination. Sans ennui, il n'y a pas d'imagination. Alors, on a des jeunes, c'est ça, pour faire la différence, qui sont de plus en plus patenteux, créatifs. Moi, je suis impressionné par leur efficience. Par contre, ils ont de la difficulté à être des vrais artistes, à partir from scratch de quelque chose, parce que leur imagination, elle est formatée par des machines.
Doc, je vais te réinviter pour en parler. C'est absolument fascinant comme sujet et aussi quand tu en parles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut, bonne journée à tout le monde. Puis allez jouer dehors.
Il fait beau en plus.
Il fait beau. Au revoir.
Salut, c'était le pédiatre depuis 40 ans, Jean-François Chiton.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ça s'appelle des deep fakes, en français des hyper trucages, avec ou sans l'aide de l'intelligence artificielle, mais évidemment, le phénomène va grandissant à mesure que l'intelligence artificielle augmente. Donc, hyper trucage, on prend la photo de quelqu'un, connu ou pas connu, ça peut être quelqu'un de votre entourage, il y a des logiciels pour ça, il y a des sites pour ça, et on met ça sur des scènes pornographiques et c'est bluffant, semble-t-il. C'est à s'y méprendre. On pense vraiment que la personne dont on a volé le visage est dans une scène porno. Ça circule de plus en plus. C'est en croissance. Il y a quelque temps, la police a arrêté des jeunes dans une école secondaire de Sainte-Thérèse. Ils avaient fait des hyper-trucages et ils ont été coffrés pour production de porno juvénile. En fin de semaine, il y avait un article du New York Times qui soulignait à quel point c'est victimisant pour les femmes et les filles. J'ai pensé inviter Léa Clermont-Dion, autrice, réalisatrice, qui s'est souvent intéressée aux violences numériques, notamment dans le documentaire Je vous salue, salope, elle est en studio. Salut Léa.
Salut Patrick.
Donc, deepfake, hyper-trucage. Tu as lu le papier du New York Times. Et à quel point, je pense qu'il faut dire aux gens à quel point c'est en croissance.
Non, mais c'est épouvantable comme phénomène. C'est une arme de destruction massive. Il y a 550% d'augmentation depuis sa création, selon l'étude qui est citée par Nicolas Christophe du New York Times. Mais c'est pas juste ça. Moi, ce qui m'a frappé, Patrick, dans l'article, c'est de constater que sur le lot de vidéos étudiées, il y en avait à peu près 100 000 dans le monde, 98% étaient pornographiques et 99% des vidéos étaient ciblées des femmes et des petites filles particulièrement, donc des enfants. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment en recrudescence et ça fait des dommages collatéraux. Je veux dire, comme on le voit dans l'article du New York Times.
Dans l'article du New York Times, on en parle. Ailleurs au Québec, il y a eu des faits divers qui en ont parlé. Ça bouleverse des vies. Soudainement, il y a des images de toi dans des positions fictives, mais très réelles, qui se mettent à circuler. C'est extrêmement gênant, c'est traumatisant.
C'est traumatisant, puis en plus, c'est que ces images-là peuvent être récupérées par des sites pornographiques. Donc, on dit dans l'étude là, que 7 sites de porno sur 10 proposent du contenu de des fakes, donc d'innocentes personnes qui n'ont jamais donné leur consentement pour être là-dessus. Parfois, c'est de la pornographie juvénile. Et un outil sur 3 de des fakes présente de la porno. Puis ce qui m'a scandalisé, c'est aussi de constater que Google réfère, donc quand tu fais des recherches pour, par exemple, de la pornographie ou autre, ils te réfèrent à ces sites-là de deepfake et ils sont conscients, d'ailleurs, Google, de ce phénomène-là. On les a questionnés, notamment au Sénat américain, mais leur réponse est « on fait notre possible ».
On fait notre possible. Léa, moi, quand j'ai lu ça dans cette chronique-là, là, dans le journal américain New York Times, je me suis souvenu que Google a menacé de débrancher les médias traditionnels ici parce qu'il y avait un litige sur le paiement pour le contenu journalistique. Ils sont capables, quand ils veulent, de tirer la plug. Le deepfake, là, ça ne sert qu'à victimiser des femmes.
Entre autres choses, puis c'est tout à fait inacceptable. Pour moi, c'est une entreprise voyou, puis on sait, par exemple, que quand les gens font une recherche, les personnes suicidaires vont dire, ben moi, comment je fais pour m'enlever la vie, malheureusement? Alors, sur Google, on peut rechercher, mais tout de suite, le moteur de recherche nous réfère à des sites de prévention du suicide. Donc, ils peuvent être des citoyens responsables, des entreprises responsables, plutôt, et les impacts sont majeurs. Donc, en 2022, là, il y a 57 millions de résultats qui étaient répertoriés pour la recherche du deep fake porn. Donc, c'est vraiment rendu une tendance, mais la tendance, elle est catastrophique, comme on l'a dit. Et dans le reportage, on voit des milliers de vies brisées. Mm-hmm. Et c'est quoi le geste ultime, la conséquence ultime de ça? C'est des dommages qui sont vraiment durables à long terme. C'est le suicide. Je veux dire, comme dans Je vous salue, salope, je présentais l'histoire de Raytheon Person, une jeune fille qui s'est faite violer collectivement. Mais là, le viol collectif, il est international.
Ça avait été filmé.
Il est partout. Ça avait été filmé, mais là, imaginez si vous n'avez même pas le contrôle. Il y a des gens dans l'article qui sont cités, des jeunes filles, qui disent avoir appris comme ça qu'elles étaient sur des sites de deepfake. Et moi, ce qui me rend aussi très triste, en fait, parce que c'est le terme qui me vient en tête, tristesse et découragement, c'est que 48% des hommes interrogés dans le cadre de ce sondage-là, qui avaient consommé de la pornographie deepfake, disaient ne pas s'être soucié vraiment des dommages collatéraux. En fait, 48% des hommes disaient finalement être assez indifférents à cette affaire-là. Donc moi, ça m'a vraiment aussi dégoûté. Il y a un marché pour ça. Il y a un marché qui est inquiétant, je dirais.
Clairement, il y a un marché, mais c'est la responsabilité de qui? Est-ce qu'il faut compter sur, disons, un sursaut de bonté d'un Google pour cesser de pointer vers des sites comme ça?
Là, il va falloir que les États, encore une fois, je le répète, se tiennent debout devant les barbares numériques, parce que c'est le cas de le dire, c'est de la barbarie numérique. Et il y a le Royaume-Uni qui a criminalisé les partages d'hypertrucage avec une loi qui s'appelle The Online Safety Act l'année dernière. Mais certains disent qu'il faut que ça aille plus loin. Donc, on parlait vraiment d'hypertrucage pornographique, mais là, certains disent non, il faut qu'on bannisse tout hypertrucage parce que ça peut aussi donner lieu à de la désinformation, de la propagation de fausses idées. Ça peut aller très loin. Puis là, nous, au Canada, on est en retard. On est en retard sur cette technologie-là. On doit s'interroger. En ce moment, il y a le projet de loi C-63 sur les méfaits en ligne. Il y a des débats qui ont lieu à Ottawa sur cette question-là. On cible particulièrement la propagation de violences sexuelles faites aux enfants. Mais je suis allée valider tout à l'heure et on n'a pas parlé d'hypertrucage encore sexuel dans ce projet de loi-là. Donc, il faudra probablement s'y pencher. Puis, j'ai lu plusieurs analyses sur la question. Puis, même les États-Unis sont vraiment très conscients de l'enjeu. Ils se rencontrent pour établir un cadre législatif. Là, il va falloir que dans nos lois, là, on ait l'intégration de la notion d'hypertrucage sexuel. Parce que sinon, le policier qui va recevoir la plainte, qu'est-ce qu'il peut faire?
Si c'est pas dans le code criminel.
Oui, et je veux faire un parallèle avec une histoire que l'on connaît bien, toi puis moi, Patrick, c'est celle de Laurence Graton, qui était dans Je vous salue salope, qui est venue à quelques reprises à ce micro-là. Laurence Graton, qui a été victime de misogynie en ligne de la part d'un cyberagresseur qui était particulièrement inquiétant, a utilisé sa photo et l'a mis sur des sites de pornographie. Okay? Donc, c'est un peu la même, finalement, visée que de faire du deepfake. Je veux dire, on veut faire du mal à quelqu'un, à une fille, en la sexualisant et en propageant son image sur des sites de porno. C'est un peu la même affaire. Qu'est-ce qui est arrivé à cette histoire-là?
Il n'y a pas d'arrestation.
On est toujours, plusieurs années après, presque 7 ans après les faits, en attente d'une enquête. Alors, imaginez si les policiers arrivent avec des situations d'hypertrucage sexualisé. Ils n'auront pas les moyens pour, finalement, rendre imputables les gens qui font ça.
OK, Léa, je t'entraîne sur un autre terrain connexe. OK, il y avait une nouvelle dans le journal Le Soleil aujourd'hui. Je résume. Policier agressé, accusé d'agression sexuelle. C'est un party. Il y a des policiers, C'est un party privé. Et il est accusé d'avoir agressé une collègue qui était intoxiquée. Parfait. Il est en procès présentement. Et là, ce qu'on apprend dans le journal Le Soleil aujourd'hui, c'est que la Fraternité des policiers de Québec, le syndicat des policiers municipaux là-bas, a fait une sorte de contribution obligatoire. Tous les membres contribuent au fonds de défense de ce policier-là. Mm-hmm. Donc, par définition, la victime alléguée paye la défense de son agresseur allégué. Comment tu as réagi en lisant cette nouvelle-là?
J'ai été estomaquée, là, vraiment, d'apprendre ça. En même temps, je me suis posé la question pourquoi il y avait ce fonds-là. Je me suis dit peut-être que certains policiers étaient amenés en cours de façon indue à cause de leur métier. Mais là, pour une agression sexuelle, un peu, je m'interroge sur la mission du fonds et ça envoie quel message à la société, aux plaignantes qui vont porter plainte, qui n'ont pas, elles, la chance d'avoir des fonds de défense lorsqu'elles portent plainte elles-mêmes. Mmh. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait comme un deux poids, deux mesures et aussi le fait qu'il y ait justement cette protection supplémentaire, ça envoie le message suivant, on se protège en chum. Là. Et moi, ça me rend mal à l'aise, je vais le dire sincèrement.
Mais Léa, tu dis on se protège en chum. La personne qui dirige la Fraternité des policiers de Québec et des policières de Québec, c'est une femme, elle s'appelle Martine Fortier.
Bien, on se protège en chum et chumette. je veux dire, c'est pas parce que il y a des femmes dans un milieu qu'elles ne vont pas contribuer au blâme de la victime. Je veux dire, cette notion, finalement, de banaliser les violences à caractère sexuel, ça concerne tout le monde, les hommes et les femmes. Donc, l'expression « en chum », je devrais effectivement l'inclure à tous parce que c'est un fléau et ça concerne aussi les corps policiers. Et finalement, ça dit quelque chose sur notre société. Là.
Toujours un plaisir. Merci d'être venu nous voir en studio, Léa.
Merci beaucoup.
C'était Léa Clermont-Dion, autrice, documentariste et aussi, évidemment, militante féministe.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.